Chapitre 35. Le père capitaine de Soya se sert de l'autorité du disque papal d'une manière jamais égalée jusqu'ici. La station Militorale 326 de Mare Infinitus, où le tapis Hawking a été retrouvé, est déclarée zone de crime et placée sous la loi martiale. De Soya fait venir des troupes de la Pax et des vaisseaux de la cité flottante de Sainte-Thérèse et met aux arrêts toute la garnison de la station ainsi que les pêcheurs présents. Lorsque le prélat gouverneur de la station, l'évêque Melandriano, proteste contre ces mesures autoritaires et conteste l'étendue du pouvoir du disque papal, De Soya va trouver le gouverneur planétaire, l'archevêquesse Jane Kelly. Elle s'incline devant le disque papal et réduit son évêque au silence sous peine d'excommunication. Après avoir nommé le jeune lieutenant Sproul officier adjoint et de liaison pendant la durée de l'enquête, De Soya fait venir une équipe d'experts médicaux légaux et des enquêteurs réputés de Sainte-Thérèse et des autres grandes cités plateformes pour examiner les lieux. On administre du Divray et d'autres drogues du même genre au capitaine C. Dobbs Powell, aux arrêts dans la prison de la station, et aux autres membres de l'ex-garnison de la Pax, sans oublier les pêcheurs présents. En quelques jours, la preuve est faite que le capitaine Paul, le défunt lieutenant Bellius et plusieurs autres officiers et hommes de troupe de cette station éloignée s'étaient entendus avec les braconniers du coin pour autoriser des parties illégales de pêche sportive, voler du matériel de la Pax, y compris un submersible déclaré coulé par l'ennemi, et extorquer de l'argent aux pêcheurs de passage. Rien de tout cela n'intéresse particulièrement le père capitaine de Soya. La seule chose qu'il veut savoir avec précision, c'est ce qui s'est passé ce soir-là, il y a plus de 2 mois standard. Les indices fournis par les experts en médecine légale s'accumulent. Le sang et les tissus prélevés sur le tapis Hawking sont analysés pour leur ADN et les résultats sont transmis au service des archives de la Pax à Sainte-Thérèse et sur la base orbitale de la Pax. 2 types distincts de configuration émergent. La plus grande partie du sang appartient sans le moindre doute possible au lieutenant Bellius. Le reste ne correspond à aucune fiche figurant dans les archives de Mare Infinitus, bien que tous les citoyens de la Pax vivant sur le monde aquatique aient été recensés et enregistrés.
« Comment le sang de Bellius s'est-il retrouvé sur cet engin volant ?» demande le sergent Gregorius. « D'après tous les témoignages recueillis sous Divray, il s'est fait balancer dans la baille longtemps avant que l'individu capturé ait essayé de s'échapper sur son tapis. »
De Soya hoche la tête en joignant le bout des doigts de ses 2 mains. Il a transformé le bureau du directeur en centre de commandement et la plateforme surpeuplée contient actuellement 3 fois plus de monde que d'ordinaire. 3 grosses frégates de la marine de la Pax sont sur ancre flottante aux abords de la plateforme et 2 d'entre elles peuvent se transformer en submersibles de combat. Le pont de la plateforme, anciennement affecté aux glisseurs, est occupé par des avions de la Pax, et des équipes de techniciens sont venues réparer et agrandir le pont d'envol des ornis. Ce matin même, De Soya a fait venir 3 autres navires dans le secteur. L'évêque Melandriano lui a fait parvenir des protestations écrites devant le coût de plus en plus élevé des opérations au moins 2 fois par jour. De Soya les ignore souverainement.
À mon avis, notre inconnu s'est arrêté pour sortir le lieutenant de la... Comment dites-vous, sergent ? De la baille. Puis ils se sont battus. L'inconnu a été blessé ou tué. Bellius a essayé de retourner à la station, mais Paul et les autres l'ont descendu par erreur.
Oui, fait Gregorius. C'est le scénario le plus plausible, en effet.
En attendant les résultats des tests ADN envoyés à Sainte-Thérèse, ils n'ont pas cessé d'élaborer toutes sortes de scénarios compliqués, mettant en scène des braconniers, des conspirations, par exemple entre l'inconnu et le lieutenant Bellius, ou des complots où le capitaine Paul, dans l'un des cas, assassine ses ex-associés. Mais l'hypothèse de De Soya est la meilleure, parce que c'est la plus simple.
Cela signifie que l'inconnu fait partie des compagnons de voyage de la petite fille, conclut le prêtre-capitaine. Et qu'il a une tendance tout à fait stupide à épargner ses ennemis.
C'était peut-être un braconnier, fait Gregorius. Nous ne saurons jamais la vérité.
De Soya tapote l'un contre l'autre les bouts de ses doigts et relève la tête.
Pourquoi pas, sergent ?
Toutes les preuves sont au fond de la mer à présent, capitaine.
Réplique Grégorius en désignant du pouce les flots violets que l'on voit s'agiter par la fenêtre du bureau.
Les types de la marine disent qu'il y a 10 000 brasses de profondeur ou plus dans ces parages. Cela représente près de 20 000 mètres d'eau, père capitaine. Si c'est un braconnier qui nous a échappé, nous ne saurons jamais ce qui s'est passé. Et s'il vient d'un autre monde, les archives de la Pax ne pouvant pas nous renseigner, il faudra explorer celles de plusieurs centaines de planètes. Nous n'arriverons jamais à le retrouver.
Le père capitaine de Soya laisse retomber ses mains et arbore un petit sourire.
C'est l'une des rares occasions où vous avez tort, sergent. Vous verrez.
Dans la semaine qui suit, De Soya se fait amener tous les braconniers dans un rayon de 1000 km pour les interroger sous d'ivraie. L'opération mobilise 2 douzaines de vaisseaux de la marine et plus de 8 000 hommes de la Pax. Le coût est énorme. L'évêque Melandriano devient apoplectique et se rend en personne à la station Militoral 326 pour mettre un terme à cette folie. Le père capitaine de Soya met le prélat aux arrêts et le fait interner dans un monastère éloigné à 9 000 km de là, dans la région de la calotte polaire. De Soya décide en outre de fouiller le fond de l'océan.
« Vous n'y trouverez rien, » lui dit le lieutenant Sproul. « Les prédateurs sont si nombreux à ces profondeurs que rien d'organique ne peut survivre à plus de 100 brasses sous la surface, et encore moins au fond de la mer. D'après nos coups de sonde récents, il y a 12 000 brasses d'eau dans ces parages, et Marine Finitus ne possède que 2 submersibles capables d'opérer à ces profondeurs. »
« Je sais, » réplique De Soya. « Je les ai fait venir. Ils seront là demain, escortés par la frégate Passion du Christ. »
Pour une fois, le lieutenant Sproul reste muet. De Soya lui sourit.
« Savez-vous, mon fils, que le lieutenant Bellius était un chrétien régénéré et que son cruciforme n'a pas été retrouvé ?»
La mâchoire de Sproul continue un instant de tomber.
« Oui, père capitaine, » dit-il enfin. « C'est-à-dire, pour être ressuscité, ne faut-il pas que son corps soit retrouvé intact ?»«
Pas du tout, lieutenant. Il suffit de disposer d'un fragment assez grand de la croix que nous portons tous. Nombreux sont les bons catholiques qui ont été ressuscités à partir de quelques centimètres de cruciforme intact et d'un morceau de chair dont on relève l'ADN pour le reconstituer sur mesure. » Sproul secoue la tête.
Père capitaine, 9 grandes marées ont passé. Il ne reste pas 1 mm² du lieutenant Bellius ou de son cruciforme. La mer qui nous entoure est une immense cuve nutritive.
De Soya s'avance jusqu'à la fenêtre.
C'est possible, lieutenant. C'est bien possible. Mais ne croyez-vous pas que nous devons à notre camarade chrétien de faire tout ce qui est en notre pouvoir ? De plus, si nous pouvions le faire bénéficier du miracle de la résurrection, il aurait à répondre devant nous de plusieurs accusations, n'est-ce pas ? Entre autres trahison, vol et tentative de meurtre, je crois.
Grâce aux techniques les plus avancées de leur profession, les experts en médecine légale peuvent relever des empreintes anciennes sur une tasse à café de réfectoire après 2 mois de lavage et relavage intensif. Les milliers de clichés obtenus sont tous laborieusement identifiés comme appartenant aux hommes de la garnison ou aux pêcheurs de passage, à l'exception d'un seul, qui est mis de côté avec l'échantillon d'ADN non identifié.
« À l'époque du Retz, » déclare le docteur Olmer Rioum, le principal expert légal, « la méga-infosphère nous aurait mis en relation presque instantanée avec les fichiers de l'hégémonie par l'intermédiaire des méga-trans. »
« Je sais, » réplique De Soya.
« Si nous avions du fromage, nous pourrions nous faire un sandwich au jambon et au fromage, à condition d'avoir du jambon.
« Hein ?» fait le docteur Rioum.
« Ne faites pas attention. J'attends un résultat d'ici quelques jours. »
Le docteur Rioum est perplexe.
« Comment voulez-vous, père capitaine ? Nous avons vérifié toutes les banques de données planétaires et enquêté sur tous les braconniers arrêtés. Je dois dire qu'il n'y a jamais eu sur Mare Infinitus d'arrestation collective d'une telle ampleur. Vous êtes en train de bouleverser un délicat équilibre de corruption en place depuis des siècles. »
De Soya se frotte l'arête du nez. Il n'a pas dormi beaucoup ces dernières semaines.
Je ne m'intéresse pas beaucoup au maintien de votre délicat équilibre de corruption, docteur.
Je vois.
Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas.
c'est comment vous pouvez espérer faire vos vérifications en quelques jours. Ni l'Église ni Pax Central ne possèdent des dossiers complets sur tous les citoyens des mondes rattachés à la Pax, et encore moins sur les confins ou les territoires des extros.
Tous les mondes de la Pax ont leurs archives, au moins en ce qui concerne les baptêmes et les sacrements. Tout ce qui concerne le mariage et la mort. Sans compter les dossiers militaires et ceux de la police.
Le docteur Rioum écarte les mains en un geste d'impuissance.
Mais par où commencer?
Là où nos recherches ont les meilleures chances d'aboutir, répond le père capitaine de Soya.
Entre-temps, on ne retrouve rien du malheureux lieutenant Bélius dans la limite des 600 bras où les deux sous-marins acceptent de descendre. Des centaines de requins arc-en-ciel sont assommés et ramenés à la surface pour analyse du contenu de leur estomac. Toujours pas de Bélius. Pas la moindre trace de son cadavre ou de son cruciforme. Des milliers d'autres charognards des mers sont ramassés dans un rayon de 200 km. Les restes de deux braconniers sont identifiés dans des gosiers, mais il n'y a aucun signe de Bélius ou de l'inconnu. Une messe funèbre est célébrée sur la station Militorale 326 à la mémoire du lieutenant dont on dit qu'il est mort de la vraie mort, celle qui mène à la véritable immortalité. De Soya ordonne au commandant des submersibles de plonger plus bas pour essayer de détecter des artefacts. Il refuse.
Pourquoi ? Demande le père capitaine.
Je vous ai fait venir ici parce que vos bâtiments peuvent descendre jusqu'au fond.
Pourquoi refuser ?
Les gueules de lampe, répond le plus âgé des deux commandants. Lorsque nous faisons des recherches, nous sommes obligés d'utiliser des projecteurs. Jusqu'à 600 brasses, nos sonars et nos radars de profondeur peuvent les détecter quand ils surgissent et arriver avant eux à la surface. Plus bas, nous n'aurions aucune chance. C'est pourquoi nous ne descendrons pas.
Vous descendrez, fait le père capitaine de Soya, dont le disque papal lui contre le fond noir de sa soutane.
Le commandant qui a le plus d'ancienneté fait un pas en avant.
Vous pouvez m'arrêter, m'exécuter, m'excommunier. Je ne conduirai pas mes hommes et mon bâtiment à une mort certaine. Vous n'avez jamais vu un gueule de lampe, père capitaine.
De Soya pose une main amicale sur l'épaule du commandant.
Je n'ai pas l'intention de vous arrêter, ni de vous fusiller, ni de vous excommunier, dit-il. Mais je verrai bientôt un gueule de lampe. Et peut-être davantage.
Le commandant ne comprend pas.
J'ai donné l'ordre de faire venir ici trois autres sous-marins de la flotte, explique De Soya. Nous allons traquer, coincer et tuer tous les gueules de lampe et autres cantes dangereux dans un rayon de 500 km. Quand vous plongerez, le secteur aura été totalement assaini.
Le commandant se tourne vers son collègue plus jeune. Les deux hommes, en état de choc, regardent De Soya, bouche bée, puis le plus âgé balbutie.
Mais, père capitaine, savez-vous combien coûte un gueule de lampe? Pour les pêcheurs sportifs d'outre-monde comme pour les usines de traitement de Sainte-Thérèse?
Environ 15 000 séidons locaux, répond De Soya. C'est-à-dire un peu plus de 35 000 florins de la Pax. Ou près de 50 000 marques mercantilus. Par tête, naturellement, précise-t-il en souriant. Et dans la mesure où vous allez recevoir tous les deux une prime de 30% sur tous ceux que vous aurez repérés, je vous souhaite une bonne chasse.
Les deux commandants se retirent à pas rapide. Pour la première fois, De Soya envoie quelqu'un à sa place dans le Raphaël pour rendre compte de sa mission. C'est le sergent Grégorius qui fait le voyage dans le vaisseau Archange, muni des relevés d'empreintes digitales et des informations relatives à l'ADN, ainsi que de quelques fils prélevés sur le tapis Hawking.
N'oubliez pas, lui dit De Soya par faisceau étroit de la plateforme, quelques minutes avant que le Raphaël entre en surgiration pour le saut quantique. Il y a toujours une importante présence de la Pax sur Hyperion, et au moins deux vaisseaux torches en permanence dans le système. Ils vous conduiront à la capitale de Saint-Joseph pour que vous y soyez convenablement ressuscité.
Sanglé dans sa couchette d'accélération, le sergent Grégorius émet un vague grognement en réponse. Ses traits, vus par la caméra, semble calme et détendu, malgré l'imminence de sa mort.
« 3 jours pour récupérer là-bas, » continue De Soya,
« plus 1 pour faire les recherches, je pense, et vous prenez le chemin du retour. »«
N'ayez pas peur, père capitaine. Je n'ai pas l'intention de traîner dans les bars de Jacktown. »«
Jacktown ?» répète De Soya. « Ah, l'ancien surnom de la capitale. » « Vous aurez une vraie soirée à passer là-bas, sergent. Si vous voulez boire à ma santé, ne vous gênez pas. Pour ma part, c'est le régime sec depuis pas mal de mois. »
Gregorius lui fait un large sourire. Il reste 30 secondes avant le saut quantique et la pénible extinction.
« Je ne me plains pas, père capitaine. »
« Très bien. Bon voyage, sergent.
Oui. »
« Plus que 10 secondes. » « Je vous remercie, sergent. » Il n'y a pas de réponse. Soudain, il n'y a plus rien à l'autre bout du faisceau serré cohérent de Tachyon. Le Raphaël a exécuté son saut quantique. 5 gueules de lampe sont repérées et tuées par la marine. Chaque fois, De Soya se rend sur les lieux à bord de son ornie de commandement.
« Dieu du ciel ! Ils sont encore plus gros que je ne l'imaginais !»
dit-il au lieutenant Sproul quand ils arrivent au-dessus de la première carcasse flottante. Le monstre, blanc comme un ver, fait bien 3 fois la taille de la station. C'est une masse informe de pédoncules oculaires, de poches stomacales béantes, de fentes brachiales encore en fibrillation, chacune de la taille de l'ornie, de filaments vibrants qui s'étendent sur des centaines de mètres, d'antennes pendantes terminées chacune par une lanterne de lumière froide d'une très grande intensité, même ici, à la lumière du jour, et de bouches, de très nombreuses bouches, chacune assez vaste pour engloutir un sous-marin de la flotte. Sous les yeux du père capitaine, les équipes de dépeçage sont déjà en train de traiter la carcasse éclatée par la pression. Les pédoncules et les filaments sont tronçonnés et mis de côté, tandis que la viande blanche est rapidement débitée en cubes transportables avant que la chaleur du soleil ne la gâte. Assuré que le secteur est à présent débarrassé des gueules et autres cantes mortelles, les 2 commandants de submersibles plongent à 12 000 brasses de profondeur. Là, au milieu de véritables forêts de vers tubulaires de la taille des séquoias de l'ancienne terre, ils découvrent un assortiment étonnant de vieilles épaves, parmi lesquelles plusieurs sous-marins de braconniers réduits par la pression à la taille d'une valise, ainsi qu'une frégate de la marine portée disparue depuis plus d'un siècle. Ils trouvent aussi des chaussures par dizaines.
C'est à cause des procédés de tannage,
explique le lieutenant Sproul à De Soya, tandis qu'ils regardent ensemble les moniteurs.
Le phénomène est curieux, mais il était déjà attesté sur l'ancienne Terre. Dans les opérations de récupération d'épaves, celles d'un bateau de surface appelé le Titanic, par exemple, on n'a jamais retrouvé le moindre corps, la mer en est trop friande, mais des tas de chaussures ont été remontées. Il y aurait quelque chose dans les techniques de tannage du cuir, paraît-il, qui découragerait les créatures marines de là-bas, et celles d'ici, d'y goûter.
Rassemblez-les, ordonne De Soya dans l'ombilical.
Les chaussures ?
Fait la voix étonnée du commandant de submersible.
Toutes ?
Toutes, fait De Soya.
Les moniteurs montrent la profusion de débris au fond de la mer, objets perdus par le personnel de la station sur une période de près de 200 ans de laisser-aller. Affaires personnelles des pêcheurs, marins et braconniers noyés, récipients en plastique jetés par-dessus bord. La plupart des objets sont déformés par la corrosion, la pression extraordinaire et les crustacés abyssaux, mais quelques-uns sont suffisamment récents et résistants pour être encore identifiables.
Mettez-moi ça sous cellophane et envoyez le tout ici,
ordonne le père capitaine. On est en train de remonter quelques petits objets brillants qui ressemblent à un couteau, une fourchette, une boucle de ceinture, un...
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
interroge soudain De Soya.
« Quoi ?»
fait le commandant du submersible qui descend le plus bas. Il surveille ses télémanipulateurs et ne regarde pas les moniteurs.
« Ce truc brillant, qui ressemble à un pistolet. »
L'angle de vue du moniteur change tandis que le sous-marin se déplace. Les puissants projecteurs entrent en action, reviennent en arrière et illuminent l'objet tandis que la caméra zoome dessus.
C'est bien une arme à feu,
confirme la voix du commandant.
Elle est encore propre, un peu abîmée par la pression, mais dans l'ensemble, intacte.
De Soya entend le déclic de l'imageur vue par vue qui recopie le moniteur.
« Je vais le prendre », fait le commandant.
De Soya a envie d'ajouter « Faites attention », mais il ne dit rien. Ses années de commandement d'un vaisseau torche lui ont appris à laisser les gens accomplir leur travail. Il suit attentivement des yeux le grappin articulé qui apparaît sur l'écran, tandis que le télémanipulateur ramasse délicatement l'objet brillant.
« C'est peut-être le pistolet à fléchette du lieutenant Bellius »,
suggère Sproul.
« Il est tombé à l'eau avec lui et on ne l'a pas encore retrouvé. »
« Nous sommes bien loin de l'endroit où cela s'est passé », murmure De Soya tandis que l'image change encore sur le moniteur.
« Les courants sont puissants et capricieux dans ces parages », fait le jeune officier. « Mais je dois reconnaître que ça ne ressemble pas à un pistolet à fléchette. C'est trop, je ne sais pas, carré. »«
Oui »,
approuve De Soya. Les projecteurs sous-marins balaient la coque encroûtée d'un submersible qui doit être là depuis des décennies. De Soya pense à toutes les années qu'il a passées à bord de vaisseaux spatiaux et au vide que l'espace représente comparé à un océan sur n'importe quelle planète. Cela grouille de vie. Il songe aux extros et à leur étrange manière de vouloir s'adapter à l'espace comme ses vers tubulaires, ses cantes et toutes ces espèces rampantes qui se sont adaptées à l'obscurité perpétuelle et aux terribles pressions des grands fonds. Peut-être, se dit-il, les extros ont-ils compris quelque chose dans l'avenir de l'humanité qui a échappé à la Pax.
Hérésie.
De Soya écarte cette pensée d'un haussement d'épaule imperceptible et se tourne vers son jeune officier de liaison.
Nous allons bientôt savoir de quoi il s'agit, dit-il. Dans moins d'une heure, ces objets seront devant nous.
Grégorius est de retour 4 jours après son départ. Il est mort. Le Raphaël émet son lugubre signal. Un vaisseau torche accoste le vaisseau 20 minutes-lumière plus tard. Le corps du sergent est transporté dans la chapelle de résurrection de Sainte-Thérèse. De Soya n'attend pas la régénération de Grégorius. Il ordonne qu'on lui apporte immédiatement la sacoche du courrier. Les archives de la Pax sur Hyperion ont identifié avec certitude l'ADN prélevé sur le tapis Hawking. On a également vérifié les empreintes partielles sur la tasse. Elles appartiennent au même homme, Rol Endymion, né en 3099 après Jésus-Christ sur la planète Hyperion, non baptisée, recruté par la garde nationale d'Hyperion au mois de Thomas 3115. A combattu dans les rangs du 23e régiment mécanisé d'infanterie durant l'insurrection d'Ursus. 3 citations pour bravoure exceptionnelle, dont l'une pour avoir sauvé un camarade de section sous le feu de l'ennemi. Affecté au fort Benjing, au sud de la péninsule de la Serre, sur le continent d'Aquila, pendant 8 mois standard. Le reste de son service a été accompli à la station 9 du fleuve Kans, sur Aquila, en patrouille dans la jungle et mission de protection contre les activités des rebelles aux alentours des plantations de fibroplastes. Grade final, sergent. Honorablement dégagé de ses obligations le 15 du mois du carême 3119. On perd ensuite sa trace jusqu'à ses 10 derniers mois où, le 23 de l'ascension 3126, il est arrêté, jugé et condamné à Port-Romance, continent d'Aquila, pour le meurtre d'un certain H. Dabil Erig, chrétien régénéré du vecteur Renaissance. Le dossier indique que Rol Endymion, après avoir refusé d'entrer dans la croix, a été exécuté par bâton de la mort 1 semaine après son arrestation, soit le 30 de l'ascension 3126. Son corps a été immergé dans l'océan. Le certificat de décès et les rapports d'autopsie ont été certifiés par l'inspecteur général local de la Pax. Le lendemain, les empreintes latentes du vieux pistolet 45 automatique écrasé par la pression sont reconnues conformes à celles de Rol Endymion et du lieutenant Bellius. Les fils du tapis Hawking ne sont pas aussi faciles à identifier, mais le fonctionnaire humain des archives de la Pax d'Hyperion a joint à son rapport une note manuscrite où il signale qu'un tel tapis occupe une place de choix dans les Cantos, composés par un poète qui vivait sur Hyperion 1 siècle plus tôt. Après sa résurrection, le sergent Grégorius se repose quelques heures, puis prend l'avion pour la station Militoral 326, où il fait son rapport à De Soya.
Celui-ci le met au courant des derniers développements de la situation. Il l'informe également que les 12 d'ingénieurs de la Pax qui se sont affairés autour du portail d'Istrans au cours de ces 3 dernières semaines ont conclu que l'arche ancienne n'avait pas été activée récemment, malgré les témoignages de plusieurs pêcheurs présents ce soir-là sur la plateforme qui ont aperçu un bref éclair dans sa direction. Les ingénieurs déclarent également qu'il est impossible d'entrer dans l'arche construite par l'ancien technocentre ou de dire à quel endroit un ou plusieurs éventuels utilisateurs auraient pu être transportés par son intermédiaire.
Comme sur le vecteur Renaissance, commente Grégorius. Mais vous avez au moins une idée maintenant sur la personne qui a aidé la fillette à nous échapper.
C'est possible, fait De Soya.
Il a fait du chemin avant de venir mourir ici.
Le père capitaine De Soya s'incline en arrière dans son fauteuil.
Vous êtes bien sûr qu'il est mort ici, sergent ?
Grégorius reste sans réponse. Finalement, De Soya murmure :
Je crois que nous en avons fini sur Marine Finitus.
Tout au moins, nous en aurons fini dans un jour ou deux.
Le sergent hoche la tête. À travers la large baie vitrée du bureau du directeur, il voit la lueur qui précède le lever des lunes.
Où allons-nous maintenant, père capitaine ? On reprend les recherches comme avant ?
De Soya a les yeux également tournés vers l'est. Il attend l'apparition du gros disque orange au-dessus de l'horizon noir.
Je ne sais pas encore très bien, sergent.
Nous allons d'abord mettre un peu d'ordre ici. Le capitaine Paul va être livré à la justice de la Pax, sur la 7e orbite, et il faudra caresser l'évêque Melandriano dans le sens du poil.
Si c'est possible, fait le sergent Grégorius.
Si c'est possible, convient De Soya. Ensuite, nous présenterons nos respects à l'archevêque Askeli, nous reprendrons le Raphaël et nous déciderons de notre prochain saut. Il est peut-être temps d'essayer de forger une théorie sur la destination éventuelle de cette fillette et de tâcher d'y arriver avant elle au lieu de suivre l'itinéraire préparé par le Raphaël sur la base du plus court chemin.
Oui, père capitaine.
Grégorius salue, marche jusqu'à la porte, s'arrête, hésite un moment.
Mais avez-vous un début de théorie ?
Demande-t-il.
Les maigres indices que nous avons découverts ici vous ont-ils servi ?
De Soya contemple le lever des 3 lunes. Sans faire pivoter son fauteuil face au sergent, il répond :
Peut-être bien. Peut-être bien.
Chapitre 36. Nous pesâmes de tout notre poids sur nos perches pour freiner le radeau avant qu'il ne s'écrase contre la paroi de glace. Toutes nos lanternes à présent étaient éclairées. Les lampes électriques trouaient les ténèbres glacées de la caverne. Une brume épaisse montait des eaux noires pour demeurer en suspens contre la voûte ciselée, comme une émanation sinistre de l'âme des noyés. Des facettes de cristal déformaient puis renvoyaient les faibles rayons de lumière, rendant l'obscurité environnante, par contraste, beaucoup plus dense.
Comment se fait-il que les eaux ne soient pas gelées ?
Demanda Aînée. Elle battait des pieds, les mains sous les aisselles pour les réchauffer. Elle avait mis tous les vêtements chauds qu'elle avait apportés, mais ce n'était pas suffisant. Il régnait un froid terrible.
C'est à cause de leur salinité, expliquai-je. Elles sont aussi salées que l'océan de Marine Finitus.
Abétique fit jouer le rayon de sa torche sur la paroi de glace qui se trouvait à 10 mètres de nous.
Elle descend au ras de l'eau, dit-il. En dessous même, à certains endroits, mais cela n'arrête pas le courant. Un instant, j'eus un fol espoir.
Éteignez vos lampes, dis-je à mes compagnons. Éteignez tout!
J'entendis ma voix résonner dans la caverne creuse envahie de vapeur. Lorsqu'ils eurent obéi, je scrutai la grotte, du côté de la paroi, à la recherche d'une lueur salvatrice indiquant qu'il y avait une issue, mais qu'elle était bouchée par un éboulement. Je ne vis rien. J'eus beau attendre que mes yeux s'accoutument, je ne décelais pas la moindre lumière du jour. Je regrettai amèrement les lunettes de vision nocturne que j'avais perdues sur Marine Finitus. Si elles avaient fonctionné ici, cela aurait voulu dire qu'il y avait de la lumière qui filtrait d'ailleurs. Nous attendîmes encore quelques instants dans le noir.
j'entendais trembler Aîné, et je sentais littéralement sur moi les vapeurs de notre respiration.
« Vous pouvez rallumer, » déclarai-je enfin.
Je n'avais pas entrevu la moindre lueur d'espoir.
Nous explorâmes de nouveau en détail la voûte, les murs et l'eau du rayon de nos torches. Les vapeurs continuaient de monter pour se condenser à hauteur de la voûte. Il y avait continuellement des stalactites de glace qui tombaient dans l'eau fumante.
« Où sommes-nous ? »
demanda Aîné en s'efforçant en vain d'empêcher ses dents de claquer. J'ouvris mon paquetage et en sortis la couverture isotherme que j'avais prise, il n'y avait pas si longtemps, dans la tour de Martin Silenus. J'enveloppai la fillette dedans.
« Voilà qui devrait garder ta chaleur, »
murmurai-je.
« Non, ne la défais pas.
Il y a de la place pour deux, »
me dit-elle. Je m'accroupis devant le cube de chauffage et l'ouvris à fond. 5 faces de céramique sur 6 se mirent à rougeoyer.
« Je viendrai dessous si cela devient nécessaire, »
lui dis-je en balayant une fois de plus la paroi de glace qui nous empêchait de passer.
« Pour répondre à ta question, je pense que nous sommes sur sol Draconi Septem. Quelques-uns de mes clients les plus riches et les plus redoutables venaient y chasser les spectres arctiques.
« Je suis d'accord, » fit Abétic.
Sa peau bleue lui donnait l'air d'avoir encore plus froid que moi tandis qu'il se penchait contre la lanterne et le cube de chauffage. La micro-toile de tente était recouverte de givre et semblait aussi cassante que du métal très fin.
« Cette planète possède un champ gravifique de 1,7G, » nous dit-il. « Depuis la chute et la disparition des programmes de terraformation de l'hégémonie, on dit qu'elle a presque partout régressé au stade de l'hyperglaciation. »«
L'hyperglaciation ?»
répéta Aîné.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Les couleurs lui revenaient tandis que la couverture isotherme lui restituait sa propre chaleur.
Cela signifie que la plus grande partie de l'atmosphère de Sol Draconi Septem est à l'état solide, expliqua l'androïde. Complètement gelée.
Aîné regarda autour d'elle.
Je crois me souvenir d'avoir entendu ma mère parler de cet endroit,
dit-elle.
Elle y a poursuivi quelqu'un un jour quand elle s'occupait d'une affaire. C'était une Lusienne, tu comprends? Elle était habituée à des gravités standards de 1,5G. Mais même pour elle, ce monde était inconfortable. Je suis étonné de voir que le Tétis y passait.
Abétic se leva pour éclairer de nouveau la paroi avec sa lanterne. Puis il se rapprocha du cube de chauffage, son dos massif courbé sous la gravité inhabituelle.
Que dit le guide? Lui demandai-je.
Il sortit le petit volume.
Pas grand-chose à Chandimion. Le Tétis ne coulait que depuis peu sur cette planète à la date de parution du livre. Mais il est indiqué qu'il passait dans l'hémisphère nord, en bordure de la zone que l'hégémonie avait entrepris de terraformer. La principale attraction pour les touristes, semble-t-il, était la possibilité d'apercevoir un spectre arctique.
« C'est ce truc que tes copains chasseurs venaient traquer ici ?»
me demanda Aîné. Je hochai la tête.
C'est tout blanc et ça vit à la surface. C'est extrêmement rapide et mortel. En voie de disparition à l'époque du Retz. Cependant, depuis la chute, d'après les conversations des chasseurs, il serait revenu en force. Naturellement, les résidents humains de Sol Draconi Septem, ou ce qu'il en reste, constituent leur mets de prédilection.
Seuls les autochtones, les colons de l'Égypte retournés depuis des siècles à l'état sauvage, ont survécu à la chute. Ils sont censés avoir des mœurs primitives. Toujours d'après mes chasseurs, les seuls animaux que les autochtones aient la possibilité de chasser ici sont les spectres. Ils détestent la Pax, au fait. On dit qu'ils tuent les missionnaires et qu'ils utilisent leurs tendons pour tendre leurs arcs comme ils le font avec ceux des spectres.
Ce monde n'a jamais été très hospitalier vis-à-vis des autorités de l'hégémonie, précisa l'androïde. D'après la légende, les autochtones ont fêté la chute et la disparition des transmetteurs d'Istrans. Jusqu'à la peste, naturellement.
La peste ?
Demanda Aîné.
Un rétrovirus. Il a réduit la population humaine originaire de l'hégémonie de plusieurs centaines de millions d'habitants à moins d'un million. Pour la plupart, les survivants se sont fait exterminer par les quelques milliers d'autochtones qui vivent ici. Le reste a été évacué peu après l'arrivée de la Pax.
Je m'interrompis pour regarder Aînée. Elle ressemblait, avec sa couverture ainsi drapée autour d'elle, à l'esquisse d'une jeune madone dont la peau brillait à la lumière de la lanterne et du cube.
Ça n'a été facile nulle part pour les habitants du Retz, après la chute, ajoutai-je.
C'est ce que j'ai cru comprendre,
me dit-elle sèchement.
Les temps n'étaient pas aussi durs pendant mon enfance sur Hyperion.
Elle regarda les eaux noires qui clapotaient sur les côtés du radeau, puis les stalactites de glace de la voûte.
Je me demande pourquoi ils se sont donné tout ce mal pour mettre quelques kilomètres de cavernes glacées dans le circuit du Tétis,
ajouta-t-elle pensivement.
C'est ce que je me demandais aussi, en effet,
murmurai-je en désignant le petit guide d'un coup de menton.
Ils disent ici que la principale attraction est représentée par les spectres arctiques. Mais ceux-ci, au dire des chasseurs d'outre-monde que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ne vivent pas dans des grottes. Ils restent à la surface.
Les yeux noirs d'Aînée demeurèrent fixés sur moi tandis qu'elle réfléchissait aux implications de mes paroles.
Cela voudrait dire que cette caverne n'en était pas une quand...
C'est ce que je pense aussi,
déclara Abétic en indiquant du doigt la voûte de glace à une quinzaine de mètres au-dessus de nos têtes. La tentative de terraformation de l'époque a surtout consisté à faire monter suffisamment la température et la pression surfacique dans certaines zones basses pour favoriser la sublimation de l'atmosphère, principalement composée de dioxyde de carbone et d'oxygène, de l'état solide à l'état gazeux.
Et ça a marché ?
Demanda la fillette.
Dans des secteurs limités, oui,
répliqua l'androïde en désignant les ténèbres qui nous entouraient.
J'ai idée que cette grotte était à ciel ouvert lorsque les touristes du Tétis traversaient ce court tronçon. Ou plutôt, devrais-je dire, apparemment à ciel ouvert, mais protégé par des champs de confinement qui empêchaient l'atmosphère de s'échapper et tenaient à distance les perturbations météorologiques les moins anodines. Ces champs, je suppose, ont disparu depuis longtemps.
Et nous sommes prisonniers d'une masse constituée par l'atmosphère que respiraient les touristes, murmurai-je en regardant la voûte, puis le fusil à plasma dans son étui.
Je me demande quelle épaisseur peut avoir,
probablement plusieurs centaines de mètres,
coupa Abétic,
peut-être 1 kilomètre vertical de glace. C'était, si je ne me trompe, l'épaisseur de la glaciation atmosphérique au nord des secteurs terraformés.
Vous en savez énormément sur cette planète.
Détrompez-vous, Achandimion. Nous venons d'épuiser mes connaissances sur l'écologie, la géologie et l'histoire de Sol Draconiseptem.
On pourrait demander au Persoc, suggérai-je en désignant le paquetage où je gardais maintenant le bracelet. Nous échangeâmes des regards.
Pas génial,
fit Aînée.
Je suis d'accord, approuva Abétic.
Peut-être plus tard, déclarai-je. Mais j'avoue que, au moment même où je disais cela, je pensais à un certain nombre de choses que j'aurais dû insister pour prendre dans le casier AEV, en particulier des combinaisons spéciales pour environnement dangereux, avec un système de chauffage puissant et équipé pour la plongée sous-marine. Même un costume spatial aurait été préférable aux vêtements chauds dans lesquels nous grelottions à présent.
J'étais en train de songer que je pourrais essayer de tirer sur la voûte pour la percer et faire entrer la lumière du jour,
murmurai-je.
Mais il y a plus de risques de faire tout crouler sur nos têtes que de dégager un passage par où nous échapper.
Abétic m'approuva d'un hochement de tête. Il avait mis un étrange bonnet de laine à longues oreillettes. L'androïde, plutôt mince d'aspect en temps normal, ressemblait maintenant à un bibendum avec toutes les couches de vêtements qu'il avait sur lui.
« Il reste du plastique dans la caisse à munitions, à Chandimion, » me dit-il.
J'y pensais justement. Il y a de quoi confectionner une demi-douzaine de charges moyennes. Mais nous n'avons plus que 4 détonateurs. Nous pourrions essayer de nous frayer un chemin par le haut, ou sur les côtés, ou encore sous la paroi de glace qui nous empêche d'avancer dans le courant. Mais nous n'aurons de quoi faire sauter que 4 charges. La petite figure de Madone transie leva les yeux vers moi en disant
« Où as-tu appris à te servir des explosifs, Roll ? Dans la garde nationale d'Hyperion ?»
À l'origine, oui. Mais le plastique, je l'ai surtout utilisé pour détruire les souches et les rochers lorsque nous aménagions les propriétés du bec. Je me levai. Il faisait trop froid pour rester longtemps immobile.
mes doigts et mes orteils engourdis avaient besoin d'exercice.
« Nous pourrions essayer de retourner sur nos pas en remontant le courant » proposai-je.
Je fis bouger mes doigts tout en piétinant le sol à plusieurs reprises. Je vis qu'Aînée fronçait les sourcils.
« Les distances qui fonctionnent sont toujours en aval, »
me dit-elle.
« Je sais, mais il y a peut-être un moyen de passer en amont.
Le principal, c'est de trouver un endroit où nous réchauffer et récupérer un peu. Ensuite, on s'occupera du portail suivant. » Elle hocha la tête sans rien dire.
« C'est une bonne idée, » fit l'androïde en ramassant la perche de tribord.
Avant de partir, je redressai le mât à l'avant en l'écourtant d'un peu plus d'un mètre pour qu'il puisse franchir sans encombre les endroits les plus bas de la voûte et y suspendis une lanterne. J'en accrochai également à chaque coin du radeau, puis nous remontâmes le courant, chaque lanterne formant un halo jaune dans la brume glacée. L'eau était peu profonde, un peu moins de 3 mètres. Et nos perches avaient une bonne prise sur le fond, mais le courant était fort et l'androïde et moi nous avions du mal à progresser. Aînée alla chercher une troisième perche à l'arrière et vint de mon côté pour m'aider. Derrière nous, le courant noir bouillonnait et tourbillonnait. Durant quelques minutes, l'exercice nous réchauffa. Je transpirais abondamment et la sueur gelait aussitôt contre ma chemise. Au bout de 30 minutes, cependant, nous étions épuisés et de nouveau gelés, et nous n'avions gagné qu'une centaine de mètres.
« Regardez !»
nous dit soudain Aînée. Elle posa sa perche et alla chercher notre projecteur le plus puissant. Abétik et moi nous pesâmes de tout notre poids sur les perches pour maintenir le radeau en place pendant que nous regardions. L'extrémité d'un portail massif était visible, émergeant d'un énorme bloc de glace, un peu comme la courbe d'une roue de chariot prise dans la banquise. Au-dessous du bout de portail visible, le fleuve devenait de plus en plus étroit, au point de n'être plus qu'une fissure d'un mètre de large au maximum, qui finissait par disparaître sous une nouvelle muraille de glace.
Les rives du fleuve devaient être 5 ou 6 fois plus espacées qu'elles ne le sont aujourd'hui en sa plus grande largeur, si large du portail les enjambait, nous dit l'androïde.
Probablement, répliquai-je aussi exténué que découragé.
Retournons à l'autre extrémité.
Nous relevâmes nos perches et nous laissâmes emporter rapidement sur toute la longueur du tunnel de glace. En 2 minutes, nous avions redescendu le courant qu'il nous avait fallu 1 demi-heure pour remonter. Nous fûmes obligés de nous servir tous les 3 de nos perches pour nous freiner et éviter de percuter la paroi de glace.
« Retour à la case départ !»
nous dit Aînée en éclairant la paroi avec la lanterne du mât.
« S'il y avait une corniche ou quelque chose, nous pourrions descendre du radeau, mais je ne vois rien. »
« On pourrait en pratiquer une avec le plastique, » proposai-je. « Créer une sorte de petite caverne. »«
Tu crois que nous y serions plus au chaud ?»
me demanda-t-elle. Sans sa couverture isotherme, elle claquait de nouveau des dents. Son corps menu avait si peu de graisse qu'il ne retenait pas la chaleur.
« Non, »
répondis-je honnêtement. Pour la 20e fois, j'allais fouiller dans nos affaires, sous la toile de tente, pour essayer de trouver quelque chose qui nous sauverait. Du plastique, des fusées de détresse, des armes. Leurs étuis étaient recouverts d'une épaisse couche de givre, comme tout le reste. Nous n'avions qu'une seule couverture isotherme et des vivres. Le cube de chauffage rougeoyait toujours, et l'homme bleu et la fillette s'en étaient rapprochés le plus possible. Mais s'il continuait de fonctionner à cette intensité, il allait perdre sa charge au bout d'une 100 heures. Avec de bons matériaux isolants, cependant, nous pouvions aménager une caverne de glace assez confortable pour nous maintenir en vie 4 ou 5 fois plus longtemps avec un réglage moins fort. Le problème, c'était que nous n'avions pas les matériaux isolants nécessaires. La micro-toile de tente était d'excellente qualité, mais avait de médiocres propriétés d'isolation. De plus, l'idée de nous blottir dans un tombeau de glace en attendant que nos lampes et lanternes s'épuisent, ce qui n'allait pas tarder à arriver avec ce froid, et en regardant le cube de chauffage mourir peu à peu, cela me nouait les tripes. Je m'avançai jusqu'à la proue du radeau, balayai à mon tour avec la lanterne du mât la paroi de glace bleutée, et déclarai soudain
« Bon, voici ce que nous allons faire. »
Aînée et Abétik, dans le cercle de lumière tremblotante projetée par le cube de chauffage, se tournèrent vers moi. Nous étions tous à moitié paralysés par le froid.
« Je vais prendre du plastique, des détonateurs. » Et tout le cordon dont nous disposons. Plus la corde, une unité com, ma lampe laser, Je m'arrêtai pour respirer.
Et je vais plonger sous cette foutue glace. Je me laisserai porter par le courant, en espérant que ce mur n'est qu'un surplomb et que le fleuve débouche à l'air libre un peu plus loin. Si c'est le cas, je remonterai à la surface pour placer mes charges à l'endroit où elles seront le plus efficaces. Je pourrais peut-être ménager un passage pour le radeau. Sinon, nous le laisserons ici et nous passerons tous à la nage.
« C'est la mort assurée, » me dit la fillette. « Tu seras en hypothermie en 10 secondes. Comment feras-tu pour revenir à la nage à contre-courant ?»«
C'est la raison pour laquelle j'ai pris la corde. S'il y a un endroit de l'autre côté où l'on peut se mettre à l'abri de l'explosion, je ne reviendrai pas. Sinon, je tirerai sur la corde d'une manière convenue entre nous, et vous me tirerez. Quand je remonterai sur le radeau, je me déshabillerai et m'envelopperai de la couverture isotherme. S'il reste en moi la moindre chaleur corporelle, je survivrai.
« Et si nous sommes tous obligés d'aller à la nage ?»
demanda Aîné d'une voix toujours aussi sceptique.
« La couverture n'est pas assez large pour nous trois. »
« Nous emporterons le cube de chauffage. Nous utiliserons la couverture comme une tente pendant que nous nous réchaufferons. »«
Pendant que nous nous réchaufferons sur quoi ?»
demanda la fillette d'une voix grelottante.
« Il n'y a pas la moindre rive de ce côté. Pourquoi y en aurait-il une là-bas »
Je désignais mon paquetage.
« C'est pour cela que nous allons essayer d'ouvrir un passage au radeau, »
expliquai-je patiemment.
Si ce n'est pas possible, j'utiliserai l'explosif pour faire tomber une partie de la muraille.
Nous flotterons sur une petite plateforme de glace.
N'importe quoi pourvu que nous parvenions jusqu'au portail suivant.
Et si nous utilisons tout le plastique pour progresser d'une 20aine de mètres avant de nous heurter à une autre paroi? Si le portail est à 50 kilomètres d'ici à travers la glace?
Je voulus faire un geste d'impatience, mais mes mains tremblaient trop. De froid, espérais-je. Je les glissai sous mes aisselles pour les réchauffer.
« Dans ce cas, nous mourrons de l'autre côté !»
lui dis-je dans un nuage formé par mon haleine.
« Ce sera toujours mieux que de finir ici. »
Au bout de quelques instants de silence, Abétic déclara
« Ce plan me semble être notre meilleure chance à Chandimion. Mais en bonne logique, vous serez obligé de le reconnaître. C'est moi qui dois faire ce voyage à la nage. Vous êtes encore en convalescence alors que j'ai été biofabriqué pour résister à des températures extrêmes. »
« Pas aussi extrême que ça. »
répliquai-je. «
Je vous vois bien frissonner, et vous ne sauriez pas où placer les charges.
Vous pourrez me guider à Chandimion à l'aide de l'unité COM.
Nous ignorons si elle fonctionnera à travers cette épaisseur de glace. De plus, c'est un travail beaucoup trop délicat, comme de tailler un diamant.
Il faut mettre les charges exactement au bon endroit. Il serait quand même logique que...
« Peut-être !»
l'interrompis-je sèchement.
« Mais ça ne va pas se passer ainsi. C'est à moi de faire ce travail. Si j'échoue, vous pourrez toujours essayer. En outre, j'ai besoin de quelqu'un de très fort de ce côté-ci pour me ramener à contre-courant. Ce sera une partie de quitte ou double. »
Je m'avançai vers l'homme bleu pour poser une main sur son épaule.
« Cette fois-ci, Abétic, je me permettrai de me prévaloir de mon grade, »
murmurai-je. Aîné laissa tomber sa couverture isotherme malgré les frissons qui la secouaient.
« Quel grade ?»
demanda-t-elle. Je me dressai de toute ma hauteur en affectant une posture héroïque.
« Sache que j'étais sergent de 3e classe dans les lanciers de la garde nationale d'Hyperion, »
déclarai-je. Mes effets furent quelque peu altérés par mes claquements de dents.
« Un sergent ?»
répéta l'enfant.
« De 3e classe. »
Elle me serra soudain dans ses bras. Je fus surpris et baissai les bras pour lui tapoter niaisement l'épaule.
« De 1ère classe pour moi !»
murmura-t-elle. Elle recula, battit le sol de ses pieds et souffla dans ses mains avant de dire
« Bon, qu'est-ce qu'on fait ?»«
Je commence à préparer les affaires dont j'aurai besoin. En attendant, tu pourrais récupérer les 100 mètres de corde qui ont servi d'ancre flottante sur Marine Finitus. Cela devrait suffire. Abétic, j'aimerais que vous laissiez avancer le radeau contre la paroi de glace de manière que l'arrière ne soit pas noyé par le courant.
Peut-être en calant l'avant sous ce rebord-là. Nous nous affairâmes tous les trois durant un bon moment. Lorsque nous nous rassemblâmes de nouveau à l'avant du radeau, au pied du mât écourté avec sa lanterne faiblissante, je demandai à Aîné. Crois-tu toujours que quelqu'un ou quelque chose nous a envoyés dans tous ces mondes du Tétis pour une raison précise ?
Elle laissa errer son regard dans la pénombre autour d'elle durant quelques secondes. Quelque part, derrière nous, une autre stalactite de glace tomba dans le fleuve avec un bruit creux.
« Oui, »
dit-elle.
« Et quelle est la raison de la présente impasse où nous nous trouvons ?»
Elle haussa les épaules. En d'autres circonstances, cela aurait pu être comique tant elle était emmitouflée dans ses vêtements.
« Une tentation !»
murmura-t-elle.
Je ne comprenais pas. « Une tentation de quoi ?»
demandai-je.
« Je déteste le noir et le froid. Depuis toujours. Peut-être que quelqu'un cherche à me tenter de me servir de certaines capacités que je n'ai pas encore convenablement explorées. Certains pouvoirs que je n'ai pas mérités. »
Je baissai les yeux pour regarder les eaux noires et tourbillonnantes dans lesquelles j'allais plonger dans moins d'une minute.
« Écoute-moi bien, ma grande. Si tu crois avoir des pouvoirs ou des capacités susceptibles de nous faire sortir d'ici, je te suggère de les expérimenter au plus vite et de t'en servir, que tu les aies méritées ou non. »
Elle posa la main sur mon bras. Elle portait une paire de mes chaussettes de rechange en laine en guise de mitaine.
« J'essaie de deviner, »
me dit-elle, tandis que son haleine se figeait sous le bord du chapeau qu'elle avait rabattu le plus bas possible sur son front.
« Mais rien de ce que je pourrais apprendre dans l'immédiat ne pourra nous sortir de là tous les trois, »
ajouta-t-elle.
« Je sais que ce que je dis est vrai. Peut-être la tentation est-elle... Mais tant pis, Roll. Voyons ce que nous pouvons faire pour traverser cette glace. »
Je hochai la tête, pris ma respiration et me défis de tous mes vêtements excepté mon slip et mon tricot. Le choc causé par l'air glacé fut terrible. Je nouai la corde autour de ma taille. Déjà mes doigts étaient engourdis par le froid. Je pris le sac étanche contenant le plastique des mains de Habétique en disant
« L'eau du fleuve sera peut-être si froide que mon cœur se figera. Si je ne tire pas sur la corde une fois très fort dans les premières 30 secondes, ramenez-moi sur le radeau. »
L'androïde acquiesça. Nous avions déjà étudié ensemble toute une série de codes pour communiquer par le truchement de la corde.
« Et si vous me ramenez mort ou dans le coma ?»
ajoutai-je en m'efforçant de garder un ton neutre.
« N'oubliez pas qu'il est possible de me ranimer plusieurs minutes après que mon cœur aura cessé de battre. L'eau froide devrait, en principe, retarder le moment de la mort cérébrale. »
Habétique hocha de nouveau la tête. Il avait enroulé la corde autour de son épaule et la tenait de l'autre main, à hauteur de sa taille, dans la posture classique d'un grimpeur.
« Très bien. »
leur dis-je, conscient de perdre un peu de ma chaleur corporelle à chaque instant.
« À bientôt, dans quelques minutes. »
Je me laissais glisser dans l'eau noire. Je crois bien que mon cœur dut s'arrêter de battre une minute, puis repartir très fort et presque douloureusement. Le courant était plus violent que je ne l'avais escompté. Il me happa littéralement sous la muraille de glace avant que je ne sois préparé. En fait, il m'entraîna sur plusieurs mètres du côté bâbord du radeau et me projeta durement contre la glace. Je fus blessé au front et aux avant-bras. Je m'agrippais de toutes mes forces à un cristal hérissé de pointes tandis que mes jambes et toute la partie inférieure de mon corps étaient aspirées par le tourbillon et que je luttais pour garder la tête hors de l'eau. La stalactite qui était tombée derrière nous s'écrasa contre la paroi à 50 cm de moi sur ma gauche. Si elle m'avait heurté, j'aurais été assommé et je me serais noyé sans même comprendre ce qui se passait.
Ce n'était peut-être pas une si bonne idée.
Réussis-je à balbutier en claquant des dents. Puis je perdis prise et fus emporté sous la glace hérissée d'aspérité. Chapitre 37. L'idée de De Soya est d'abandonner la quête laborieuse du Raphaël et de sauter directement jusqu'au premier système occupé par les extros.
« À quoi cela nous servira-t-il, père capitaine ?» demande le caporal Key.
« Peut-être à rien du tout, » reconnaît De Soya. « Mais s'il y a une filière extro dans tout ça, c'est là-bas que nous la prendrons. »
Le sergent Grégorius se frotte la joue.
C'est possible, dit-il. Comme il est possible que nous nous fassions capturer par un essaim. Ce vaisseau n'est pas le mieux armé de la flotte de sa sainteté, si vous me permettez de dire ce que je pense, père capitaine.
De Soya hoche la tête.
Mais il est très rapide. Nous pouvons probablement battre de vitesse la plupart des engins extra. Il est également possible qu'ils aient abandonné le système à l'heure actuelle. Ils agissent souvent ainsi, comme vous le savez. Ils attaquent, se démènent, repoussent un peu plus loin le grand mur et abandonnent le système en laissant derrière eux un dispositif de défense symbolique après avoir dévasté au maximum les planètes et leur population.
De Soya s'interrompt soudain. Il n'a vu de ses yeux qu'un seul monde dévasté par les extros, c'est Svodoba. Mais il espère ne jamais connaître de nouveau un tel cauchemar.
Quoi qu'il en soit, ajoute-t-il, cela ne fera aucune différence pour nous à bord de ce vaisseau.
Normalement, le saut quantique au-delà du grand mur demanderait 8 ou 9 mois de voyage, avec 11 ans ou plus de déficit de temps. Mais pour nous, le saut sera instantané, avec les 3 jours habituels pour la résurrection.
Le lancier Rétig lève la main, comme il le fait souvent dans ses débats.
« Il y aurait une chose à considérer, père capitaine. »«
Laquelle ?»«
Les extros n'ont jamais capturé de courrier archange. Ils ne doivent même pas savoir que cela existe. La plus grande partie des hommes de la nouvelle flotte n'ont d'ailleurs jamais entendu parler de cette technologie nouvelle. »
De Soya comprend immédiatement où il veut en venir, mais Rétig continue.
C'est un risque certain que nous allons courir, père capitaine. Pas seulement pour nous, mais pour la Pax tout entière.
Il y a un long moment de silence. Puis De Soya prend la parole.
Vous soulevez là un point intéressant, lancier. J'y avais déjà pensé. Mais le haut commandement de la Pax a justement fabriqué ce vaisseau avec sa crèche de résurrection intégrée pour que nous puissions voyager au-delà de l'espace contrôlé par la Pax. Il est clair que les ordres nous autorisent à suivre les pistes qui pourraient mener aux confins, jusque dans les territoires occupés par les extros si besoin est.
Le prêtre capitaine prend une inspiration profonde.
J'y suis déjà allé. J'ai incendié leur forêt orbitale et combattu leurs essaims. Les extros sont étranges. Leurs tentatives d'adaptation à des environnements hostiles et même au vide spatial frisent le blasphème. Ils ne sont peut-être plus humains. Mais leurs vaisseaux ne sont pas rapides. Le Raphaël devrait pouvoir s'introduire chez eux, puis réintégrer des vitesses quantiques s'il est menacé. Nous pouvons même le programmer pour qu'il s'autodétruise en cas de capture.
Aucun des 3 gardes suisses ne dit mot. Il songe à la mort dans la mort que cela représenterait. Une destruction sans avertissement. Ils s'endormiraient comme d'habitude sur leur couche d'accélération ou dans leur crèche de résurrection, pour ne plus jamais se réveiller, tout au moins dans cette vie. Le sacrement du cruciforme est quelque chose de miraculeux. Il peut ramener à la vie des corps déchiquetés, presque anéantis. Il peut redonner leur aspect physique et leur âme aux chrétiens régénérés qui ont été tués par balles, par le feu, la faim, la noyade, l'asphyxie, un coup de couteau, l'écrasement, la maladie. Mais il y a certaines limites. Une décomposition prolongée rend la mort irréversible, de même que l'explosion thermonucléaire du système de propulsion d'un vaisseau.
« Nous sommes avec vous, je suppose »,
déclare finalement le sergent Gregorius. Il n'ignore pas que le père capitaine a organisé ce débat simplement parce qu'il déteste ordonner à ses hommes de prendre un tel risque avec leur vie. Qui, Rétig, se contente de hocher la tête.
« Très bien », fait De Soya.
« Je vais programmer le Raphaël en conséquence. S'il n'y a aucune chance pour qu'il s'échappe avant que nous puissions être ressuscités, il fera exploser ses réacteurs de fusion. Et je serai très prudent en fixant les paramètres définissant la situation de fuite impossible. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chances pour qu'une telle chose se produise. Nous nous réveillerons dans... Mon Dieu, je n'ai même pas vérifié quel système a été le premier occupé par les extros parmi les mondes du Tétis. S'agit-il de Taizin ?
Négatif, père capitaine,
fait Gregorius en se penchant sur la liasse de cartes stellaires que le Raphaël a imprimée pour les besoins de leur quête.
C'est Hébron, la planète juive.
Très bien, fait le père capitaine. Regagnons nos couchettes et préparons-nous à la translation.
L'année prochaine à la Nouvelle-Jérusalem.
L'année prochaine, père capitaine ? Demande le lancier hétique qui flotte un instant au-dessus de la table des cartes avant de se propulser d'un coup de talon vers sa couchette.
De Soya sourit. C'est une expression que m'ont appris certains de mes amis juifs. J'ignore ce qu'elle veut dire.
Je ne savais pas qu'il y avait encore des juifs dans les mondes de la Pax, s'étonne le caporal qui. Je croyais qu'ils s'étaient tous réfugiés dans les confins.
Le père capitaine secoue la tête. Il y avait encore quelques juifs convertis à l'université où je suivais des cours pendant mon séminaire. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt en voir sur Hébron. Sanglez-vous maintenant.
Dès qu'il se réveille, le père capitaine comprend que quelque chose ne va pas. Il lui arrivait quelquefois, dans sa jeunesse insouciante, de se saouler en compagnie d'autres séminaristes. En l'une de ces occasions, il s'est réveillé dans un lit inconnu, tout seul, Dieu merci, dans un quartier de la ville qu'il ne connaissait pas. Impossible de se rappeler où il était et comment il était arrivé ici. Et le présent réveil ressemble un peu à cela. Quand il ouvre les yeux, au lieu de voir les couchettes de résurrection de la crèche du Raphaël, au lieu de sentir l'odeur d'ozone et de transpiration recyclée du vaisseau, au lieu d'éprouver la terreur panique de la sensation de chute libre qu'il éprouve toujours dans ces moments-là, il se retrouve dans un lit confortable, dans une jolie chambre, sous une gravité raisonnablement proche de la normale. Il y a des icônes religieuses au mur. La Vierge Marie, un gros crucifix avec un Christ qui lève vers le ciel ses yeux pleins de douleur, un tableau représentant le martyre de saint Paul. Une faible lumière pénètre par les rideaux de dentelle. Tous ces détails sont vaguement familiers aux yeux hagards du père capitaine, de même que le visage bienveillant du petit prêtre rondouillard qui lui apporte un bouillon et sa conversation superficielle. Finalement, les synapses de De Soya se remettent en route et établissent la jonction. C'est le père Baggio, le chapelain de résurrection qu'il a rencontré pour la dernière fois dans les jardins du Vatican et qu'il était sûr de ne plus jamais revoir. Tout en avalant son bouillon à petites gorgées, il regarde par la fenêtre du presbytère le ciel bleu pâle et pense « Passem ». Il fait un effort pour se souvenir des événements qui l'ont amené ici, mais la dernière chose qu'il se rappelle est sa conversation avec Grégorius et ses hommes, suivie de la longue ascension du puits gravifique de Mare Infinitus et de 70 Ophiuchi A, juste avant le choc de la translation.
« Comment ?» bredouille-t-il en agrippant le prêtre par la manche. « Pourquoi ? Et comment ?»«
Allons, allons, » lui dit le père Baggio. « Il faut vous reposer, mon fils. Nous aurons plus tard tout le temps de discuter. Tout le temps qu'il faudra. »
Bercé par sa voix douce, la lumière diffuse et l'oxygène richement présent dans l'air, De Soya ferme les yeux et s'endort. Ses rêves sont sinistres. Lorsque le repas de midi arrive, de nouveau du bouillon, il devient évident pour De Soya que le suave et rondouillard père Baggio ne va pas répondre à ses questions, ni pour lui dire comment il est arrivé sur Passem, ni pour lui donner des nouvelles de ses hommes, ni pour lui expliquer pourquoi il refuse de répondre.
Le père Farrell va bientôt venir vous voir, murmure le chapelain de résurrection, comme si c'était la clé de tout.
De Soya rassemble ses forces, fait sa toilette, s'habille, s'efforce de retrouver tous ses esprits et attend l'arrivée du père Farrell. Ce dernier se montre au milieu de l'après-midi. C'est un ecclésiastique de haute taille, maigre, d'aspect ascétique. De Soya ne tarde pas à apprendre, sans trop de surprise, qu'il a le grade de commandant dans la Légion du Christ. Sa voix, bien que douce, a un rythme haché et efficace. Ses yeux sont d'un gris d'acier.
« Votre curiosité est compréhensible, » déclare-t-il. « Vous devez avoir l'esprit encore un peu confus. C'est tout à fait normal pour quelqu'un qui vient d'être régénéré. » « Je commence à bien connaître les effets secondaires. »
Réplique De Soya avec un sourire légèrement ironique.
« Je suis seulement curieux de savoir pourquoi je me réveille sur Passem.
Que s'est-il passé dans le système d'Hébron? Et comment vont mes hommes?
Les yeux gris de Farrell ne clignent pas pendant qu'il répond.
En ce qui concerne votre dernière question, père capitaine, je peux vous assurer que le sergent Gregorius et le caporal Key vont très bien. Au moment où je vous parle, ils sont dans la crèche de résurrection des gardes suisses en train de récupérer.
Et le lancier Rettig? Demande de Soya. Le mauvais pressentiment qui plane sur lui depuis son réveil déploie soudain ses ailes noires.
Il est mort, malheureusement, répond Farrell. De la vraie mort. On lui a administré les derniers sacrements et son corps a été rendu aux profondeurs de l'espace.
Comment a-t-il pu mourir? De la vraie mort?
De Soya a envie de fondre en larmes, mais se retient car il ne sait pas très bien si c'est l'effet d'un réel chagrin ou de sa récente résurrection.
J'ignore les détails, déclare Farrell.
Les deux hommes sont assis dans le petit salon du presbytère que l'on utilise habituellement pour les réunions et les discussions importantes. Ils sont seuls sous le regard des saints, des martyrs, du Christ et de sa Sainte Mère.
Il semble qu'il y ait eu un problème avec les installations automatiques de résurrection du Raphaël à votre retour d'Hébron,
poursuit l'ecclésiastique.
À notre retour? S'étonne de Soya. Je ne comprends pas, mon père. J'avais programmé le vaisseau pour qu'il reste dans le système à moins d'être pris en chasse par un essaim extro. Cela a-t-il été le cas?
De toute évidence, père capitaine. Et j'ignore, comme je l'ai dit, les détails techniques. Je ne suis d'ailleurs pas compétent en la matière. J'ai cru comprendre que vous aviez programmé votre vaisseau Archange pour qu'il pénètre dans l'espace contrôlé par les extros.
Notre mission nous avait conduit sur Hébron,
interrompt de Soya. Farrell ne proteste pas contre cette interruption. Son expression demeure neutre, mais de Soya croise une fois le regard glacé de ses yeux gris, et il ne l'interrompt plus jamais.
Comme je vous le disais, père capitaine, à ce que j'ai cru comprendre, vous avez programmé votre vaisseau pour qu'il pénètre dans l'espace extro et qu'il se mette, à condition de n'être pas poursuivi, en orbite autour de la planète Hébron.
Le silence de Soya équivaut à une confirmation. Ses yeux noirs soutiennent le regard gris du prêtre légionnaire, sans animosité pour le moment, mais il est prêt à se défendre contre une éventuelle accusation.
Je crois comprendre également que votre vaisseau courrier, je pense, s'appelle bien le Raphaël.
De Soya hoche la tête. Il vient de s'apercevoir que cette formulation soigneusement calculée, ces questions posées alors que la réponse est connue, sont la marque d'un homme de loi. L'Église possède de nombreux avocats.
Et inquisiteurs. Le Raphaël semble avoir exécuté votre programme. Il n'a rencontré aucune opposition directe pendant la phase de décélération et s'est mis en orbite autour d'Hébron,
continue Farrell.
C'est là que s'est produite la panne du système de résurrection?
Demande de Soya.
Je crois savoir que ce ne fut pas le cas, répond Farrell.
Les yeux gris du prêtre légionnaire quittent un instant de Soya, voyagent rapidement à travers la pièce comme pour estimer la valeur du mobilier et des objets d'art qu'elle renferme, ne découvrent apparemment rien qui les intéresse, puis reviennent se poser sur le prêtre capitaine.
Il semble,
poursuit-il,
que vous étiez tous les quatre très près de la résurrection complète lorsque le vaisseau a été obligé de quitter précipitamment le système. Le choc de la translation vous a été, comme il se doit, fatal. Une résurrection secondaire à la suite d'une résurrection primaire incomplète est, comme vous le savez sans doute, beaucoup plus délicate à réaliser qu'une résurrection simple. C'est à ce stade que le sacrement a été évincé par la défaillance mécanique.
Lorsque Farrell cesse de parler, un silence total s'établit. Perdu dans ses pensées, De Soya n'est que vaguement conscient du bruit de la circulation terrestre, dans la rue sous la fenêtre, ainsi que du grondement d'un transport qui décolle du port spatial voisin. Finalement, il déclare
« Les crèches ont été inspectées et remises en état pendant que nous étions en orbite autour du vecteur Renaissance, père Farrell. »
Ce dernier hoche la tête d'une manière presque imperceptible.
Nous avons rassemblé un épais dossier. Je pense qu'il s'agit de la même erreur de calibrage que dans le cas de la crèche automatique du lancier Rettig. L'enquête est en cours auprès de la garnison du système Renaissance.
Nous avons également étendu nos investigations au système de Mare Infinitus, à Epsilon Eridani, à Epsilon Indi, au monde de Grâce Inévitable, dans le système Lacaille 9352, au monde de Barnard, à NGCES 2629 4BIV, au système Vega et à Tosetti.
De Soya ne peut que battre des paupières en disant « Vous ne laissez rien au hasard, je vois. » Il est en train de penser « Ils doivent se servir des deux autres archanges pour mener une enquête si poussée. » « Pour quelle raison ?»«
C'est exact, » lui répond le père Farrell.
Le père capitaine de Soya soupire et se laisse aller en arrière contre les coussins moelleux du presbytère.
C'est donc ainsi qu'on nous a retrouvés dans le système de Svoboda et qu'on n'a pas pu ressusciter le lancier Etig, avance-t-il.
Le père Farrell laisse voir un léger tressaillement de sa lèvre inférieure.
Svoboda, père capitaine. Pas du tout. À ce qu'il paraît, votre vaisseau courrier a été retrouvé dans le système 70 au Fiushi A, alors qu'il décélérait en direction du monde océanique de Mare Infinitus.
De Soya se redresse soudain.
Je ne comprends pas. J'avais programmé le Raphaël pour qu'il se translate dans le système suivant de la Pax figurant dans sa liste de recherche au cas où il lui aurait fallu quitter prématurément le système d'Hébron. Normalement, il s'agissait de Svoboda.
Peut-être la nature de la poursuite par des engins ennemis dont le vaisseau a fait l'objet dans le système d'Hébron a-t-elle empêché l'alignement voulu pour la translation ?
Suggère Farrell d'un ton neutre.
L'ordinateur de bord a pu décider dans une telle éventualité de retourner à son point de départ.
Ce n'est pas impossible, déclare de Soya en essayant, mais en vain, de déchiffrer l'expression de son interlocuteur.
Mais vous dites que l'ordinateur a pu décider. N'êtes-vous pas fixé sur ce point après avoir examiné sa mémoire?
Le silence de Farrell est interprétable au choix comme une confirmation ou comme une absence de réponse.
Si nous sommes retournés sur Mare Infinitus, continue de Soya, pour quelle raison nous réveillons-nous ici sur Passem? Que s'est-il passé dans le système de 70 au Fiushi A?
Farrell, à présent, sourit, c'est-à-dire que ses lèvres fines s'avancent presque imperceptiblement.
Le hasard a voulu, père capitaine, que le vaisseau Archange Michel se trouve dans l'espace militaire de Mare Infinitus au moment où vous vous y êtes translaté. Le capitaine Wu se trouvait à son bord.
Margaret Wu, demande de Soya, indifférent à l'idée d'irriter son interlocuteur en l'interrompant encore.
Précisément,
réplique Farrell en faisant mine d'ôter un fil imaginaire sur son pantalon aux plis impeccablement repassés.
Compte tenu de la mauvaise impression que votre dernier passage a laissée sur Mare Infinitus,
vous faites allusion, je suppose, aux mesures d'éloignement de l'évêque Melandriano dans un monastère pour ne plus l'avoir dans mes jambes, et à l'arrestation de plusieurs officiers de la Pax vendus et corrompus, qui se livraient probablement à leur petit trafic avec la bénédiction de l'évêque.
Farrell l'interrompt d'un geste.
Les événements dont vous parlez ne font pas partie de mon champ d'investigation, père capitaine. Je répondais simplement à votre question. Vous permettez que je continue ?
De Soya regarde droit devant lui. Il sent la colère monter, mêlée au chagrin qu'il éprouve à l'annonce de la mort de Rétig et à l'ivresse causée par sa résurrection récente.
Le capitaine Wu, qui avait déjà entendu les doléances de l'évêque Melandriano et de plusieurs hauts administrateurs de Mare Infinitus, a estimé qu'il serait éminemment souhaitable que vous soyez ramené sur Passem pour y être ressuscité.
Notre résurrection a donc été interrompue une seconde fois ?
Pas du tout,
réplique Farrell d'une voix d'où toute irritation est absente.
Le processus de résurrection n'avait pas encore été engagé dans le système de 70 au Fiushi A lorsque la décision de vous remettre au haut commandement de la Pax et au Vatican a été prise.
De Soya contemple le bout de ses doigts. Il tremble. En imagination, il voit le Raphaël avec sa cargaison de cadavres, le sien y compris. D'abord une visite funèbre au système d'Hébron, puis la lente décélération vers Mare Infinitus, puis la surgiration jusqu'à Passem. Il relève soudain la tête.
« Combien de temps sommes-nous restés morts ? »
demande-t-il.
« 32 jours, »
répond Farrell. De Soya fait presque un bond dans son fauteuil. Finalement, il se laisse aller en arrière et murmure d'une voix aussi contrôlée que possible.
Si le capitaine Wu a décidé de nous ramener ici avant même le début de la résurrection dans l'espace de Mare Infinitus, et s'il n'y a pas eu de résurrection dans l'espace d'Hébron, nous n'aurions pas dû rester morts plus de 72 heures. Mettons que nous ayons passé 3 jours ici. Qu'en est-il des 26 jours manquants, père Farrell ?
Ce dernier lisse le pli de son pantalon.
Il y a eu quelques contretemps dans l'espace de Mare Infinitus, dit-il froidement. Une enquête a débuté là-bas. Il y a eu des plaintes. Le lancier Rétig a eu des funérailles officielles dans l'espace. D'autres tâches ont été accomplies. Et le Raphaël est rentré avec le Michel.
Il se lève soudain, imité un instant après par De Soya.
Père capitaine,
annonce brusquement Farrell.
Je suis ici pour vous transmettre les compliments du cardinal secrétaire lourd du Samy. Il vous souhaite une prompte convalescence et une excellente santé entre les bras du Christ. Et vous prie de l'honorer de votre présence demain matin à 7 heures dans les bureaux vaticanais de la Congrégation pour la doctrine de la foi, où vous rencontrerez Monseigneur Luca Oddi et les autres membres officiels de la Congrégation.
De Soya est pris de court. Il ne peut que claquer les talons et incliner le front en signe d'acceptation. C'est un jésuite et un officier de la flotte de la Pax. Il est formé à la discipline.
Parfait,
déclare le père Farrell avant de se retirer. Le père capitaine De Soya demeure plusieurs minutes dans le salon du presbytère après le départ du légionnaire du Christ. En tant que simple prêtre et officier de carrière, il a échappé en grande partie aux querelles de politique interne qui agitent les hautes sphères de l'Église. Mais même le prêtre provincial et soldat de métier qu'il est connaît la structure de base du Vatican et sa fonction. Au-dessous du pape, il y a 2 catégories administratives principales, la curie romaine et ce qu'on appelle la congrégation sacrée. De Soya sait que la curie est une structure administrative lourde et labyrinthienne. Sous sa forme moderne, elle a été créée par Sixte Quint en 1588 après Jésus-Christ. Elle comprend un secrétariat d'État, la base de pouvoir du cardinal Lourd du Samy qui fait office, en quelque sorte, de premier ministre, avec le titre trompeur de cardinal secrétaire d'État. Ce secrétariat forme le noyau central de ce que l'on appelle parfois la vieille curie, celle qui a été utilisée par les papes depuis le XVIe siècle. Il y a en outre la nouvelle curie, constituée de 16 organismes secondaires créés par le 2e Concile du Vatican, encore communément désigné aujourd'hui sous le nom de Vatican II, qui fut réuni en 1965 après Jésus-Christ. Ces 16 organismes se sont ensuite développés pour donner 31 assemblées interconnectées durant le règne de 260 ans du pape Jules. Mais ce n'est pas devant la curie que De Soya est convoqué. Il doit comparaître devant l'une de ces assemblées séparées et souvent souveraines qui porte le nom de congrégation sacrée. Plus précisément, il va être jugé par la Congrégation pour la doctrine de la foi, un organisme qui a amassé, ou plus exactement, retrouvé un énorme pouvoir au cours de ces 2 derniers siècles. Sous le pontificat de Jules, la Congrégation pour la doctrine de la foi avait de nouveau le pape pour préfet, et ce changement de structure eut pour effet de revitaliser ses fonctions. Durant les 12 siècles qui précédèrent l'élection de Jules, la Congrégation sacrée, connue sous le nom de Saint-Office de 1908 à 1964 après Jésus-Christ, avait été continuellement affaiblie au point de n'être plus qu'un organe vestigiel. Mais à présent, sous Jules, le pouvoir du Saint-Office se fait sentir à travers 500 années-lumière d'espace et 3000 ans d'histoire. De Soya retourne dans le salon et s'appuie contre le dossier du fauteuil où il était assis. Il a l'esprit qui tourbillonne. Il sait à présent qu'on ne lui permettra pas de communiquer avec Grégorius ou qui avant la séance du Saint-Office de demain matin. Il ne les reverra peut-être jamais plus. Il essaie de dérouler le fil qui l'a conduit dans cette situation, mais il se perd dans le dédale des antagonismes politiques de l'Église, des dignitaires offensés, des conflits internes de la hiérarchie de la Pax et dans le tourbillon de ses propres idées, produit de son cerveau meurtri par sa récente résurrection. La seule chose qu'il sait de manière certaine, c'est que la Congrégation pour la doctrine de la foi, précédemment connue sous le nom de Congrégation du Saint-Office, était encore plus célèbre auparavant, durant plusieurs siècles, sous l'appellation de Sacrée Congrégation de l'Inquisition universelle. Et c'est sous le pontificat de Jules XVI que l'Inquisition a retrouvé à la fois son nom et le sentiment de terreur qui lui est généralement associé. Sans préparation, ni avocat, ni connaissance des accusations auxquelles il va être appelé à faire face, De Soya doit comparaître devant cette assemblée demain matin à 7 h. Le père Baggio s'engouffre dans le salon avec un sourire de chérubin sur ses traits bouffis.
« Votre conversation avec le père Farrell a-t-elle été agréable, mon fils ? »
demande-t-il.
« Oui, »
répond De Soya d'une voix distraite.
« Très agréable. » « Parfait, parfait, » dit le père Baggio. « Mais maintenant, je pense qu'il est temps de prendre un bon bouillon et de prier. C'est bientôt l'heure de l'Angélus, il me semble. Ensuite, au dodo de bonne heure. Nous devons être en forme pour affronter ce que demain nous apportera, n'est-ce pas ?